Chers auditeurs et auditrices, vous écoutez bien Cinéphiles de notre temps, le podcast qui dresse le portrait des cinéphiles travaillant dans le milieu du cinéma. Avant de commencer, nous voudrions remercier tout d'abord Hugo Cohen qui a sauvé cet épisode grâce à ses talents au mixage, ainsi que nos Patreons qui nous soutiennent financièrement et nous permettent de faire notre travail en toute indépendance. Un grand merci à Paul, Jean-Noël, Guillaume, Clara, Bernard et Irène. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute.
Notre invitée est une comédienne qui traverse le cinéma français depuis les années 80. Elle s'est laissée percevoir par la caméra de multiples cinéastes, de Jacques Rivette à Catherine Corsini, en passant par Olivier Assayas ou Bertrand Mandicot. Elle a joué dans plus de 60 films, sans compter les courts-métrages, les films de télévision, ou encore les nombreuses pièces de théâtre dans lesquelles elle s'illustre aussi bien qu'au cinéma. Dans la plupart des histoires qu'elle incarne, on ne sait jamais vraiment si ces personnages sont bons ou mauvais, heureux ou malheureux. Ils sont là, présents, ancrés, avec un corps, un regard et une voix. Si le corps semble prendre de la place dans la pratique de notre invité, il est toujours profondément lié à la voix, qui prend peut-être encore plus de place. Par son timbre, son élocution, son rythme, mais aussi et surtout par la pensée qu'elle véhicule. Cette pensée, ou plutôt cette attention portée à cette pensée, et peut-être au cœur du travail de notre invité et de sa cinéphilie. Bienvenue, Nathalie Richard. On est vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui à notre micro.
Merci beaucoup, moi je suis très heureuse aussi.
Et alors, comme c'est de coutume, on va commencer par une petite citation. Quel est le but du cinéma ? Que le monde réel, tel qu'offert sur l'écran, soit aussi une idée du monde. Il faut voir le monde comme une idée, il faut le penser comme concret. Et alors ça, c'est une citation de Jacques Rivette, dans une interview des années 60 qu'il a donnée au Cahier du cinéma. On connaissait vraiment Jacques Rivette donc comme un cinéaste, mais aussi comme un critique et comme un passeur. Et vous avez joué dans plusieurs de ses films. Donc est-ce que cette citation, ça vous parle ?
C'est-à-dire que oui, dans la mesure, il faut voir comme une idée ou sa propre idée qu'on peut se faire de ce monde et que cette vision ou cette imagination ou ce rêve puisse parvenir à être réel ou en tous les cas concret dans le rêve de ce qu'est le cinéma.
Bon, c'est toujours difficile de débattre des citations de Rivette.
Mais je vois très bien ce qu'il veut. Oui, c'est-à-dire que ça puisse apporter une réalité, même si ce n'est qu'un film, c'est une fiction, que quelque chose puisse passer dans la réalité de cette fiction et qu'elle puisse s'ancrer peut-être quelque part, donner d'autres films, donner d'autres idées, des réactions. Et donc finalement, ça s'inscrit aussi dans le tissu social, dans le tissu de création, dans le tissu politique.
Dans la conscience, presque.
Dans la conscience, Donc en ce sens-là, ça devient concret. Même, j'ai l'impression, c'est ce que je comprends.
C'est ce qu'on comprend aussi, en tout cas.
D'accord.
Et moi, je me demandais si ça vous parlait par rapport à Jacques Rivette, peut-être à sa cinéphilie ou à sa manière de...
Jacques est beaucoup plus cinéphile que moi, donc je crois qu'il était assez imbattable. En sachant qu'il allait tout voir, même ce qui ne faisait pas partie, entre guillemets, de son cinéma, c'est-à-dire qu'il allait voir des films où lui-même disait « moi, je ne pourrais jamais faire ça » ou « je ne ferai jamais ça », mais il en appréciait fortement la qualité ou... Donc, qu'est-ce que vous vouliez, pardon?
C'était très bien, c'était tout à fait ça par rapport à ce que vous pensiez de la cinéphilie 2 de Jacques Rivette, justement.
C'est d'aller voir vraiment ce qui vous ressemble et ce qui ne vous ressemble pas. Et comment ça peut peut-être se retrouver à un moment donné dans votre... Mais il avait un fort goût pour vraiment d'aller en salle tous les jours, je crois qu'il y allait. Il pouvait voir même deux films. Après, vers la fin de sa vie, je ne sais pas si c'était aussi régulier. Mais je sais, par exemple, vraiment, dans les dernières années, j'étais allée, ils avaient fait une rétrospective au Saint-Germain-des-Prés du Louis II de Bavière. Donc, c'est quand même 4 heures de film. Moi, j'étais allée à la séance d'avant, je sors, il y avait Jacques avec Véronique. Donc, quand même 4 heures et quelques. Voilà. Mais bon, mais c'était vraiment, ce goût du cinéma, c'était le plaisir d'abord, je pense, de se retrouver dans une salle et puis vraiment d'aller voir des films très différents. Donc connaître la création cinématographique.
Et pouvoir peut-être la faire résonner avec ses propres films, peut-être.
Aussi, peut-être. Après, je pense qu'il avait un goût comme spectateur du cinéma, de la découverte du cinéma de l'autre. Il était très curieux aussi, je pense, attentif aussi au travail d'autrui.
Bon, on va commencer votre portrait par une première petite question où on vous a demandé si vous étiez une voix au cinéma, laquelle seriez-vous ? Alors nous, on l'a trouvée assez évidente comme question, mais vous l'avez trouvée étrange, parce que vous nous avez répondu évidemment par la vôtre. C'est vrai, ça paraît un peu évident. Et ensuite, vous nous avez cité les voix de plusieurs acteurs et actrices qui vous ont marqué dans l'histoire du cinéma. Alors, moi, je voulais vous demander quel rapport vous aviez peut-être à votre voix et comment les voix de ces acteurs, je ne sais pas si vous vous souvenez desquels.
Si, très bien. J'ai parlé en particulier d'Orson Welles et James Mason.
Qui ont des voix particulières. Ouais. Et voilà, quel rapport vous aviez à votre voix et peut-être à ces autres voix que vous nous avez.
Je trouve que vous avez très bien expliqué au tout début, en fait. Non, mais c'est vrai. Je me suis dit, ah oui, dis donc. J'ai répondu parce que avec une actrice, si vous étiez une voix, c'est vrai qu'avec une actrice, bon, c'est quand même. Après, comme je sais aussi que ma voix est assez repérable, bon, bien souvent, après, il y a des moments où on dit, tiens, elle fait penser à Delphine Seyrig. Alors, je ne sais pas si c'est le rythme ou c'est devenu après, j'en sais rien. Mais je dois dire que vraiment les voix qui m'ont. Évidemment, il y a Marlène Dietrich, tout ça. Mais celles qui m'ont vraiment. Enfin, où je trouvais que c'était des voix sublimes. Alors, c'était des voix d'hommes. Et le Mason, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très métallique dans sa voix, très particulier. Un timbre, enfin, il y a eu du métal, je ne sais pas comment expliquer. D'un rire aussi, il y a quelque chose qui est un peu, qui n'est pas pincé, qui est fermé, mais où on sent une grande, sorte de grande nostalgie. Donc après, quand on voit un peu les films qu'il a fait, Pandora et tout ça, ouais, même l'affaire Cicéron, enfin, il y a quand même tout, il a toujours, dans le jeu, il se tramale toujours de sacrée destinée, quand même, il faut dire. Et un rythme, et puis il a cet accent un petit peu aussi gallois, non, si je me souviens. Il est quoi ?
Très anglais, je trouve, moi,
oui,
justement.
Oui, mais gallois, oui, mais c'est.
C'est ça, il me semble.
Je pense qu'il est de. Il a un accent gallois, en fait. C'est l'Angleterre où il est. Mais c'est ça que j'adore.
En fait, il y a un charme assez particulier, quand même.
Ah ouais, mais complètement. Moi, ça me. Voilà. Et bon, peut-être parce que c'est un homme, mais je pense que c'est eux qui m'ont. Je sais pas pourquoi c'est eux plus. Peut-être parce qu'aussi il y avait un ailleurs qui était plus grand.
Parce que
les femmes, elles sont effectivement. Enfin bon, les hommes aussi, mais. C'est-à-dire quand elles ont une très belle voix, c'est-à-dire qu'elles ont la voix grave, elles charment, etc. Et que je trouvais qu'il y avait peut-être quelque chose de plus complexe et peut-être quelque chose de cette complexité même. Sensuelle, mais aussi de la pensée, ce qu'il y a avec Wells, où je trouve dans toutes les voix off et tout ça, c'est prodigieux de. Non seulement il a une voix extrêmement chaude, enveloppante, mais on sent que derrière, mais tous les mots sont pensés, il sait exactement où il va aller. Dans
mais elle est très puissante.
Et beaucoup d'humour. Et je trouve qu'il y avait énormément d'humour, même dans les films, où... parce qu'après j'ai repensé, j'avais vu Janer et tout, mais vraiment, j'adorais. Bon. Et il arrive à manier, je trouve, dans cette voix, ce que j'entendais, c'était plein de formes, d'adresses. Voilà.
Mais moi, quand j'ai relu la question après, je me suis dit voix comme une voix qu'on entend, mais aussi une voix comme à suivre. Et moi, quand j'ai lu un peu le parcours de ces. Vous nous en aviez cité quatre, il y avait James Mason, Orson Welles, Ingrid Bergman. Et
Ingrid Bergman aussi que j'ai. Oui. Mais ça, elle, c'est après, c'est. Parce que je me souviens, j'avais vu Les Enchaînés, mais toute jeune. Et alors là, j'étais sortie un peu, j'aurais pu mettre, j'étais sortie, j'avais dit, ah, mais quel film incroyable. Et surtout, c'était la dernière scène. Avec... Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose dans sa grâce. Elle a un léger accent aussi.
Ah oui.
Donc, je trouvais ça très, très intéressant, la façon dont il apparaissait ou disparaissait. Et après, c'était sa voix avec le rapport de son corps aussi, de ses mouvements. Enfin, je trouvais qu'elle avait une sorte de grande naïveté et de grande grâce. Voilà.
Mais en fait, plus que les voix à entendre, mm-hmm. c'était presque les voix à suivre, parce que c'était quand même quatre acteurs un peu à la renommée internationale et qui ont marqué le cinéma à tout jamais. Mm-hmm. Et que moi, j'ai aussi entendu ça comme quatre voix à suivre aussi en tant que presque modèle, mais peut-être que j'ai tort.
Ah bah non. Ah bah ouais.
Non. Donc plutôt oui, plutôt non.
Oui, puis en plus, enfin, Bergman, c'était quand même une dame incroyable. Hein, de... Après, le travail qu'elle a fait, de comment elle est partie aussi de Scandinavie, tout le chemin qu'elle a fait à Hollywood, ce qu'elle a quitté Hollywood pour être avec Rossellini. Donc aussi, elle a changé complètement de type de jeu. On lui en a beaucoup voulu d'avoir divorcé. Donc elle a quand même assumé, dans l'image et la construction d'une personnalité féminine, beaucoup de choses, quoi, je trouve.
Puis elle a regagné Hollywood aussi.
Elle a regagné Hollywood, oui, absolument. Donc... Et de Wells, je me suis dit, non, il y a une intelligence, voilà. Donc c'est,
Presque inquiétante, moi, je trouve.
Ah ouais? Oh, je sais pas. Dans La Dame de Shanghai, il est sublimement beau, quoi. Non, mais c'est vrai, on oublie, parce qu'on a l'image de Wells quand il est devenu vraiment de vie, très, très oui, fort, plutôt. Très gros. Mais même là, avec son cigale, il a un regard pétillant.
Oui, il est plus candide. À ce moment-là, un peu plus innocent, je trouve,
ouais.
qu'à la fin.
Ouais. Oui, non, mais il a une vraie beauté, je trouve.
Et on vous a demandé après, pour rallonger un peu sur la voix, mm-hmm. si vous étiez une réplique au cinéma, laquelle seriez-vous ? Et là, vous nous avez cité donc, le « Je suis le colonel Chabert » de Rému, dans le film de 43 du colonel Chabert. Et après aussi une autre réplique qui n'a rien à voir, et en même temps, j'aimerais bien que vous nous disiez pourquoi vous les avez choisies toutes les deux. C'est la réplique de fin de Certains l'aiment chaud, « Nobody is perfect », donc « Personne n'est parfait », qui est quand même très drôle.
Ouais, alors d'abord j'avais dit, je sais plus, c'est de le film, il est de Le Havre, parce que je l'ai revu, donc je pensais à Harry Bore. Alors,
pourquoi c'est ce que vous nous avez dit au début.
Et j'ai découvert l'autre jour en re-regardant quand même... Bon, c'était Rému. Alors après, je suis allée voir, parce que je pense que j'avais vu de Harry Bore avec Duvivier, peut-être Les Misérables, mais j'ai eu un tel souvenir. Mais en plus, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai un souvenir de... Enfin, comment dire, bah, en fait, je ferais... Oui, alors ça, j'ai pas... Il est devant quelqu'un, mais en plus, c'est comme un plan en plongée. Et je vois la tête de bord, et avec, je suis le colonel Chabert. Et un truc, quand j'ai le souvenir de petite, m'a dit, waouh, c'est quoi ce truc qui parle avec un regard, en plus, tellement... Encore, en plus, c'est l'histoire de quelqu'un qui est censé
être mort,
qui revient comme un fantôme, mais comme un survivant aussi, puisque il était censé mourir sur le champ de bataille, donc sûrement couvert par tous les cadavres, et il en est sorti. Donc j'avais dû comprendre tout ça et de cette phrase, voilà. Et d'Harry Bore, parce que je trouvais qu'Harry Bore avait une façon de dire les choses. Bon, Rému est formidable, mais pourquoi j'étais très étonnée.
C'est un peu les mêmes personnalités, Harry Bore et Rému. Enfin,
oui, il y a quelque chose dans le corps, dans la voix, et puis dans cette chaleur aussi, cette grande douceur qu'on voit. Enfin, c'est assez rare aussi où on demande des gens qui ont cette corporalité de leur donner et cette force, cette subtilité, cette douceur, cette sensitivité aussi, ouais, même d'amour, quoi, voilà.
Cette finesse.
Ouais. Et à bord, il avait beaucoup ça. Et je trouve que dans la face, il avait quelque chose qui n'était pas théâtral du tout. Mais et que là, il y avait cette force de dire « je suis un revenant ». Bah, peut-être que l'acteur, à force de jouer ou quand il joue, il y a quelque chose de l'ordre du revenant. Ou de celui qui revient, ou qui... vous voyez, ça. Et,
qui réincarne.
Qui réincarne aussi, bien sûr, ouais. Et puis aussi, bien souvent, on a quand même des rapports dans les films avec la mort, cet au-delà de la fiction. Enfin, il y a tout ça, quoi. Donc, je trouvais que ça donnait... Et peut-être que je trouve qu'il y a une force de dire « je suis là à nouveau, je reviens », qui est...
De s'imposer, ouais, d'être là.
Ouais, pas d'être là, quoi. Sur l'identité aussi, ou sur cette identité où on pense qu'il l'est, qu'il ne l'est pas. Enfin, il y a toute cette chose-là.
Et justement...
Puis d'être en vie aussi, de comment... Et Nobody is Perfect, bah, quand on joue, tout n'est pas forcément parfait. Et puis en plus, c'est à la fin, c'est quand ils sont dans le bateau, il enlève la perruque. Et donc, voilà.
Il reprend sa voix grave.
Il reprend sa voix, voilà. Et nous aussi, c'est tout un jeu de transformation de tout ça. Donc, voilà.
C'est vrai qu'elle condense tout le film, en fait, cette réplique, en
oui.
plus.
Bah oui, oui.
Et dans la transformation, et peut-être dans ce que c'est de jouer, d'être un acteur ou une actrice. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est très... qu'elle dit beaucoup plus que juste ces trois petits mots.
Oui, oui, oui. Oui, puis aussi, on n'est pas forcément qui on pense, l'autre ne l'est pas forcément, et on tombe peut-être dans des histoires où on n'aurait jamais pu pouvoir penser tomber. C'est
vrai. Et en dernière question de ce petit portrait, on vous avait demandé si vous étiez encore dansant au cinéma, lequel seriez-vous ? Et là, la réponse a fusé, c'était Fred Astaire.
Ouais.
Et alors c'est... pourquoi ?
Oh ben c'est un sublime danseur quand même, non ? Voilà. Après, j'ai Jane Kelly, forcément. Donc, après, je pensais à Sid Sarge, parce que pendant un temps, j'ai vu quand même pas mal de comédies musicales. Mais je trouve qu'il a... Enfin bon, disons, c'est les deux. Mais après, il y a... Mais il y a une sorte de fluidité. En plus, c'était un acharné du travail, hein, quand même. Donc, il y avait cette chose aussi où le tellement d'heures de travail, on ne voit pas. Bon, après, on le sait si on suit. Donc, voilà. Donc, c'est cette sorte où ça paraît tout facile, tout en apesanteur. Et il y a un truc de rythme.
Et vous avez un film, vous pensez à un film en particulier avec lui ?
Alors justement, j'ai essayé de revoir, il y avait celui, c'est quoi, avec Audrey, Drôle de Frimousse, avec Audrey Hepburn,
oui.
Qui est, où il est photographe et tout ça, non,
oui, c'est ça Funny ouais. Face, oui, c'est ça, Drôle de Frimousse.
Ouais, c'est ça, voilà. Mm-hmm. Voilà, il y avait ça, mais après, il y en a plein d'autres, je ne sais plus. Là.
Mais moi, ce qui m'a un petit peu... Enfin, parce qu'on vous a demandé si vous étiez un corps dansant, lequel seriez-vous. Mmh. Et parce que moi, je vous revois dans Au bas fragile, mmh. où il y a des chorégraphies très maîtrisées, très précises, etc. Et puis d'autres moments de danse, enfin, où j'avais l'impression que c'était beaucoup plus improvisé, avec une espèce d'impression de lâcher prise. Or, dans la danse de Fred Astaire, pour moi, il y a un immense travail, un truc extrêmement précis, et où on sait que tout est chorégraphié... la seconde près, oui, c'est millimétré. Et moi, j'avais l'impression que dans votre corps, il y avait quelque chose d'un peu plus dans le lâcher-prise.
Ah bah parce que d'abord, il fait des claquettes au cinéma et tout ça. Donc, c'est pas le même type de chorégraphie. Sûrement, mais justement, c'est pour ça que j'admire. Et après, non, il y avait quand même dans des choses de Jacques où c'était quand même assez précis. Là, où la toute fin, quand on danse les gestes, il y avait toute une mesure de gestes, ça c'était précis. Après, il y avait des moments où on improvisait dedans. Bon, mais on n'était pas non plus à la même époque. Il n'y avait pas toute cette danse contemporaine, il n'y avait pas... Mais peut-être aussi parce qu'après, j'ai pas assez travaillé la danse aussi, ça m'est arrivé. Mais justement, j'admire
cette maîtrise.
Cette maîtrise, oui, vraiment, complètement.
C'était pas du tout en question de travail. Moi, c'était plus, c'est vrai que ça laissait respirer parfois justement ce lâcher prise, alors que Fred Astaire, c'est magnifique, c'est maîtrisé et c'est fluide.
Ouais.
Je dirais pas que ça respire pas, mais c'est juste que je sentais un peu cette différence entre vos deux manières de danser. Et
oui, mais ça, je pense, c'est le oui, alors du coup, ça serait plus Kelly, quoi, par exemple. Mais puis même dans la... Mais parce qu'aussi Fred Astaire, comme j'ai fait du patinage artistique, ça me faisait penser à ça, en fait. Mais le fait de glisser, quoi. Mmh.
Oui, il fait du roller un moment, en plus comme vous, dans Au bas fragile.
Ah oui, je me souviens plus dans quel film.
Je sais plus, mais c'est avec...
C'est possible.
Ginger
Rogers,
ça. Ouais.
Ah, c'est possible, ouais.
Oui, ils sont, je sais plus dans quel film c'est, mais ils sont là avec les rollers et à la fin de la scène, ils tombent dans la pelouse. Enfin, c'est assez marrant.
Ah. Mais bon, après, je pense que c'est un truc d'époque aussi. Enfin, le temps, si vous voulez.
On va revenir au temps.
Parce que le à Hollywood, enfin toutes les comédies musicales, c'était quand même tout était super réglé, super. Donc voilà, donc l'histoire de la danse, elle n'était pas au même endroit pour moi, quoi.
Après nous avoir parlé de son amour pour la comédie musicale de l'âge d'or d'Hollywood, Nathalie Richard reste dans le passé pour nous évoquer son lien à la pellicule, à cette manière de filmer et de tourner qui ancre le cinéma dans une autre temporalité.
Moi, j'ai commencé avec la pellicule, hein, donc et donc avec Jacques, comme avec Ackerman, mais enfin bon, surtout avec Chantal, mais surtout Jacques. Mais c'est vrai que quand on voit comment ils ont remasterisé tout ça, c'est splendide. Les couleurs, le grain, la matière, il y a quelque chose quand même qu'on va... Bien sûr, après, moi, je ne m'y connais pas assez en technique, mais avec les appareils Canon, effectivement, on peut arriver, ou alors parce qu'aussi, on change en 35. Mais il y a une beauté, je trouve, de... Je ne sais pas comment... Ça se voit.
Peut-être un grain...
Il y a une profondeur aussi. Il y a un travail de la couleur qui est... c'est pas lisse. Et c'est la lumière, vivant. Du coup, c'est vivant. Oui, il y a quelque chose vraiment de...
Il y a quelque chose... qui est peut-être plus organique, en tout cas.
Sûrement. Et ça se voit. C'est pas que... On le ressent dans le temps de la projection, je trouve. Vraiment.
Et puis, on vous a aussi posé cette question, parce que... Donc, on sait que vous jouez avec Bertrand Mandicot, notamment, qui est quand même...
Qui tourne qu'en pellicule.
Oui, l'un des cinéastes actuels. Et ils sont rares, quand même, à ne tourner qu'en pellicule. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous attire aussi la pellicule, c'est une des raisons pour lesquelles vous choisissez ce genre de projet ou...
Avec Bertrand, c'est son cinéma aussi, mais c'est vrai que la pellicule fait partie de son cinéma, c'est-à-dire aussi de comment le plateau s'organise.
Et donc, ça a un impact. Mais
c'est d'ailleurs, c'est pour répondre après avec l'autre question. Alors, c'est quand même avec Bertrand, comme on a des jours de tournage toujours un peu serrés avec tout ce qu'il faut faire et tout ça. C'est vrai que ce n'était pas les mêmes conditions avec Jacques. Hein, donc, parce que la pellicule, évidemment, ça prend plus de temps parce qu'il faut charger, on attend. Et ça, c'était, je trouve, tout un plaisir de sur le plateau. C'est-à-dire qu'on se rendait compte que tout le monde avait un temps particulier et à un moment donné, on se mettait tous dans le même temps, du moment de la répétition et dans le temps... De la prise, qui était un moment particulier, parce qu'on ne pouvait pas non plus utiliser de la pellicule à n'en plus finir. Quoi. Donc je trouve qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'attention et de la concentration, et quand même une notion du temps, de chacun et de tout à un moment donné, avec un moment de suspension, de concentration, qui n'existe... Évidemment, après, c'est la responsabilité du metteur en scène, mais qui n'existe plus de la même façon dans la mesure où... le numérique, vous pouvez en faire autant que vous voulez, des prises. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on oublie quand même que l'acteur, il est un cerveau pour jouer. Il peut pas se concentrer 12 heures, en fait. Ou il peut pas avoir de l'imagination pendant 12 heures ou 10 heures. Et en pellicule, ça permettait aussi d'interrompre, enfin de donner de la distance, de revenir...
Donc, une limite.
Une limite, voilà, exactement. Et surtout aussi pour tout le monde, de l'efficacité, de on prend au cas où on perdrait quelque chose, alors que quand même l'idée c'est qu'on perd tout le temps quelque chose, on n'amasse pas du truc là pour se faire du matériel. Voilà, donc en fait, l'idée de rater quelque chose ou de se préparer tous ensemble pour aller vers un inconnu, peut-être raté, mais pas complètement. Enfin, je sais pas, il y a tout un risque en fait qui est plus le même.
Ça ritualisait aussi peut-être le moment.
Ouais. Où... Oui, ça complètement. Et donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que comme aussi maintenant on vous demande de produire, il faut faire, enfin tout a tendance à s'aligner. Alors que la pellicule faisait que c'était un temps quand même
plus unique en fait.
Ouais, je trouve. Et puis de qui amenait aussi à une autre concentration, ce qui fait que nous, après, je sais pas pour tous les acteurs. Mais il y a des moments, le temps des répétitions, c'est déjà un temps de tournage. Alors, quand est-ce que nous, on a un vrai temps de répétition? Enfin, je veux dire, quand est-ce qu'on peut se planter pour essayer de faire un truc un peu bien? Non, il faut toujours être bien. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des fois où on veut être bien, c'est bien, mais c'est moins intéressant que si, à un moment donné, on sera peut-être encore mieux que bien. Quoi. Donc, voilà, c'est un peu toutes ces nuances qui sont... Ouais, ça nous oblige, nous, à penser autrement, quoi. Et on est un peu pressé des fois, je trouve, comme si. Maintenant, comme spectatrice, non, il y a quand même des sublimes films qui sont faits en numérique. Après, bon, il y a plein de moyens techniques aussi, donc je sais pas. Mais bon, après, il y a aussi. Alors, est-ce que c'est lié? Parce qu'il y a aussi toute l'histoire de la télé qui est rentrée dans le cinéma, qui n'était pas comme ça du tout à l'époque non plus. Quoi.
C'est vrai. Bon, mais de toute façon, ça... dans le reste de l'émission, on parlera de films qui n'auraient jamais pu exister sans le numérique, comme ceux de Wang Bing, de toute façon. Mais on y reviendra. On va passer à la deuxième question de cette grande partie. Et on va continuer à parler de son finalement, parce que on vous a demandé quel film vous préféreriez presque écouter juste la bande-son plutôt que de voir. Et vous avez répondu par Zéro de conduite, et qui effectivement, pour l'avoir revu pour la préparation de l'émission, a une magnifique bande-son. Bah, en fait.
Génial quand même, non?
C'est magnifique. Et c'est une bande-son très très riche en plus.
Oui, parce que j'ai revu un petit peu aussi. Et en fait, il y a des moments, même de tout d'un coup, comme si on retournait au cinéma muet, de silence. Il y a des trous de silence où l'image apparaît, enfin, toute la bataille de Polochon. J'avais oublié, je pensais que c'était intégré à la musique. Et en fait, il y a un vrai affaissement de tout. Ça commence à se composer dans l'image. Et au moment où on part. Et tout, je veux dire, les bruits des jeunes garçons quand ils marchent dans la rue, le rythme de leurs phrases, la musique. Ouais, c'est très, très riche, c'est vraiment.
C'est presque théâtral, moi, je trouve, ouais, avec les voix. Surtout la voix du directeur, forcément, marque, parce qu'elle est vraiment très drôle. Mais il y a un truc hyper théâtral, quoi. Et dans le Je vous dis merde aussi.
C'est ça, il y a des répliques qui marchent.
Je vous dis merde, mais c'était quoi après? C'était un pot de colle, vous allez. Monsieur, il peut y aller, il a mal au ventre. Monsieur, mais ça, non, mais même des répétitions. Monsieur, il peut y aller, il a mal au ventre. Monsieur, il peut y aller, quoi? Il a mal au ventre. Il y a un truc très direct, quoi. J'aurais voulu regarder, il y avait ça, il y avait quoi d'autre? Enfin, on pourrait sortir des phrases.
Il y a beaucoup de phrases incroyables, franchement. Ouais. Et après, je trouve que toute la bande son est très hétéroclite. En fait, elle est très riche. C'est-à-dire qu'il y a, ça commence et ça finit par la même comptine. Il y a des moments uniquement musicaux et qui évoquent le cinéma muet. Puis il y a toutes ces répliques qui se détachent du reste des dialogues. C'est quand même très, 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 très riche.
Ouais. J'ai revu aussi. Je trouvais que c'était un très beau film. Mais à chaque fois, je le revois. Il y a une poésie. Et c'est un film musical, comme vous dites. Après, quand j'ai dit il faut le voir, parce que je pense qu'il faut le voir, mais quand on l'a vu, si on ferme. Je pense qu'il y a les images, ou qui reviennent autrement, mais on a une impression du film, de sa vigueur, et puis de son authenticité, puis même, c'est Zéro de conduite, hein, quand même.
Mais moi, j'ai toujours aimé ce film, mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point la bande-son tenait comme ça aussi, en fait.
Ouais, enfin,
Et c'est vrai que là, en le revoyant et en l'écoutant mieux, j'étais agréablement surpris.
Ouais, ah bah super, ça me fait plaisir.
Bah, le son, c'est toujours le grand oublié du cinéma.
Oui, oui. Même les gens du son, bien des fois, ils disent « Mais comment est-ce qu'on arrive dans cet endroit où il y a du bruit et qu'il faut tourner ?» Et ben, c'est vrai que je vois les bruits se retrouvent.
Mais d'ailleurs, les films
et
de
pourtant,
Vidou...
c'est quand même vachement important parce que... Zut alors.
Bah oui.
Chantons sous la pluie à qui ils doivent... Non mais voilà, quand même, toute l'histoire du cinéma, si on parle aujourd'hui de cinéma, si on parle bien du cinéma parlant, quasi très très rarement du cinéma muet, quoi.
Mais d'ailleurs, quand on parle de Vigo, moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est que le son est difficilement restauré, en fait, aussi. La première fois que j'ai vu un film de Vigo, c'était peut-être L'Atalante à la Cinémathèque, justement. Mmh. Et en fait, j'ai passé la moitié du film à essayer de comprendre ce que les acteurs se disaient, parce que le son était quand même... Donc c'est important de restaurer correctement l'image et le son.
Et le son, bien sûr. Mais bon, justement, quand on parlait des acteurs, quand même... Parmi les grands acteurs, en général, c'est quand même ils ont une voix très particulière, non. Après, on peut en aimer plus ou moins, mais enfin, je veux dire, il y a quand même toujours quelque chose.
Puis vous avez commencé en nous parlant de cinéma par des voix quand même là tout à l'heure.
Oui.
Dans cette troisième catégorie, dédiée à la mémoire et au sommeil, Nathalie nous parle de rêve et de nuit, en commençant avec un film duquel elle est sortie complètement émerveillée, Le Gertrude de Dreyer.
J'étais pas comme dans un rêve pendant le film, c'est en sortant du film que j'avais une impression de rêve éveillé ou que j'avais été transportée. Et alors ça... À chaque fois, je suis désolée, mais je parle de films assez anciens parce que le Si j'étais m'a propulsée dans mon enfance de cinéma, en fait. Donc et je dis ça pour ça parce que je me souviens très très bien des salles, par exemple, où j'ai vu certains films en étant toute jeune qui m'ont marquée. C'est vraiment l'ensemble, c'est le lieu, je sais plus si c'était le matin ou le soir, enfin des choses comme ça. Enfin, c'est comme si c'est tout un truc, quoi. C'est de rentrer dans la salle, de s'asseoir là, quel écran là.
Et vous vous souvenez des projections?
Alors, le Dreyer, je me souviens, c'était au Latina. C'était un dimanche, je crois bien, parce que j'étais au tout début du... J'étais déjà au petit début du conservatoire. Ouais, peut-être. Mais en fait, c'était le début où j'allais. Il y avait encore le Centre culturel du Marais qui existait, où ils faisaient des super expos de peinture, donc j'y allais toute seule. Et c'était une des premières fois où j'allais toute seule voir des trucs, parce que j'avais un peu peur au début. Je préférais aller avec des copines. Mais après, j'ai trouvé un grand plaisir à goûter une certaine solitude et de découvrir aussi dans cette solitude-là. Et donc, il y avait le Latina qui était à côté, qui est devenu, je ne sais plus comment il s'appelle
c'est
maintenant.
Le Luminor, dans voilà. De ville.
Voilà, exactement. Et là, je me souviens, j'étais au fond de la salle. Et je ne sais même pas, parce que je ne connaissais pas Dreyer. Je crois que c'est le premier film Scordet. Je l'ai vu après les Maîtres de Logis, ensuite. Et je me souviens, j'étais au fond de la salle. J'ai regardé ce film, mais j'ai un souvenir de... Donc, je me souviens très bien, enfin, c'est marrant comment la mémoire... Du noir et blanc de cette femme. Et... de ce qu'elle disait à la toute fin. Alors là, je voulais, mais j'ai pas eu le temps de ce qu'elle disait à la toute fin. Enfin, c'est une pensée sur l'amour et tout ça. Bon, c'est une femme qui vit passionnément l'amour, qui est toujours d'une certaine façon aussi déçue, aussi par l'attitude des hommes dans leur comment dire, dans leur attention aux femmes et à cet amour, ce grand amour possible. Et donc, elle a la force de se séparer d'une part d'un ami, de son mari, de retrouver un ancien ami qui a dû être un amant, si je me souviens bien, et ouais. Qui va avoir une aventure avec un jeune homme, mais bon, ce qui ne va pas réussir. Et donc, elle va décider de vivre en solitaire. Mais il y a elle reçoit une lettre et il y a ça, il faudrait que vous
son
racontiez.
Son ami qui revient.
Qui revient, voilà. Ouais. Et quand j'ai revu, alors il y a longtemps, parce que j'ai revu, j'étais très étonnée. Alors je pense que c'est ça qui m'a marquée, c'est de la forme. Parce que c'est assez... bon, j'avais le souvenir, parce que là j'ai revu le début, ce qui est assez hiératique. Mais il y a tout un jeu de reflets dans les miroirs, sur les seuils des portes. Donc il y a quand même une mise en scène, je pense, que j'ai perçue. Et commençant à faire du théâtre, où je me suis dit, tiens, c'est dingue, c'est pas du théâtre, mais il y a quelque chose de ça, c'est du cinéma, de quelque chose qu'on pourrait utiliser sur scène aussi, en fait.
Mais je crois en plus que le Gertrude part d'une pièce de théâtre.
D'une pièce
en fait.
De théâtre, oui, oui, oui. Et après, je trouvais que cette femme, elle avait une sorte d'immense mélancolie, nostalgie, mais avec une grande. Comment dire, une grande. Un très beau port de tête, si j'ose dire, parce qu'elle est filmée comme ça. Donc c'est cet ensemble. Et aussi, je me suis rendu compte après coup aussi, c'était quand même le courage aussi de combattre la place, comment dire, d'être un peu contre les a priori de ce qu'est une femme dans un ménage et de la position de la femme dans la société. Donc voilà, mais c'était la grande grâce après quand j'ai eu la grande grâce de filmage, quoi. Et puis quand même c'est des cadres très posés, ces histoires de reflets
et de regards aussi. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il ne se regarde
absolument. Il y a toute
yeux.
Une scène quand elle est avec son. Ah mais ça c'est génial, mais ça a été repris en fait au théâtre vachement après, qui est presque un truc classique en fait ou même antique. Mais c'est magnifique là. Mais parce que c'est vrai que quand on se parle en général, on se parle pas non plus toujours.
Tout à fait dans les yeux, mais.
Ouais, ça empêche de faire un chant contre chant.
Oui, ils sont toujours presque face au spectateur. Ouais, ouais. Mais donc moi, ça leur donnait, je trouvais, un air de somnambule.
C'est
presque.
Ça.
Ah oui, c'est vrai. Mais elle est un peu comme ça en fait.
Oui, on a l'impression qu'elle rêve, enfin qu'elle traverse sa vie comme un rêve.
C'est ça. Et justement, il y a toute une séquence, toute une scène aussi hallucinante que le reste du film, mais dans laquelle elle regarde quasiment la caméra, si mes souvenirs sont bons, et dans laquelle elle dit, justement avec son phrasé, cette langueur, que la vie est comme un rêve.
Est comme un rêve, d'accord.
Et en fait, c'est à ce moment-là que ça m'a frappé aussi dans le film. Je me suis dit, oui, les mouvements de caméra sont très lents, eux ne se regardent pas, ils regardent beaucoup face à eux, et ce côté somnambule donne l'impression d'assister à un rêve aussi.
Alors c'est peut-être pour ça qu'aussi je suis ressortie
en somnambule.
Ouais, enfin transportée. Non, après j'ai marché, mais j'étais à 1 cm au-dessus du sol. Un peu comme ça me fait. C'est Tayama qui disait que le ciel il commençait déjà dès qu'on soulève le pied. Quand même.
C'est vrai, c'est une bonne remarque.
C'est vrai. Puis non, et aussi ce qui m'a pardon, pas non, c'était tout le temps. Enfin, parce qu'après, à la toute fin, les derniers plans, on voit quand même qu'il y a du maquillage, elle est vieillissante et tout ça. Mais enfin, il y avait tout ce trajet jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la. Voilà.
Mais on va. Parce que vous avez joué la voix off, justement, il n'y a pas très longtemps. Dans le film de Elinor Weber, Il n'y aura plus de nuit, qui est un très beau titre. Et donc, pour faire résonner ce très beau titre, on vous a demandé si vous aviez un film qui, pour vous, n'était visible qu'en pleine nuit et qu'en pleine nuit seulement. Et vous nous avez cité le film de Murnau, Le dernier des hommes, qui a certaines scènes de nuit et qui peuvent même faire penser à certains moments à des cauchemars. Mais pourquoi vous l'avez choisi justement pour être visible que la nuit ?
Ben muet, la nuit, il n'y a pas beaucoup de bruit. Et peut-être justement, comme on parlait du son, un cinéma en pleine nuit, mais c'est un cinéma où il n'y a pas de
y a silencieux.
Non, parce que ce qui m'avait frappé dans le film de Léonore, justement, c'était le silence.
Alors que les images,
il y a ces corps qui sont tués, mais c'était l'absence de tous ces cris, de cette réalité du corps qui vient quand même par le son. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à un film muet. Et Le dernier des hommes de Murnau, parce qu'il il va vraiment dans la nuit, dans la déchéance jusqu'à ne plus rien avoir. Et après, fort heureusement, je ne sais plus, c'est aux toilettes où il découvre ce milliardaire qui va lui donner les... Donc il y a quand même tout un rapport de... C'est vraiment dans les tréfonds.
Et c'est vraiment un personnage pathétique ou... Enfin, c'est un petit drame, entre guillemets, mais il le joue comme une tragédie.
Oh ben oui, ben c'est le dernier des hommes. Ah non, mais il est tellement... Mais tout le début du film, c'est magnifique. Le palace, tous ces... C'est transparent, c'est là on se dit, mais c'est vraiment du cinéma contemporain. Enfin, je veux dire qu'il y a des effets spéciaux, il y a des fois, c'est pas mieux que ce qu'ils ont inventé déjà à ce moment-là. Quoi.
Bah, c'était un des premiers films avec une caméra aussi libre en plus.
Ouais, ouais. Et aussi, parce que c'est pourquoi parce que j'ai revu là au Festival de Belfort où j'étais jury, j'ai revu Tabou. J'ai vu Tabou, magnifique. Donc c'est vrai, non seulement ce metteur en scène qui est quand même un immense metteur en scène, mais il y a une sorte d'innocence, de naissance aussi. Justement, de l'image, il y a des trucs dans Zéro de conduite où on retrouve cette chose-là. Voilà, pas seulement la bataille de Polochon, mais des moments... Mais dans Tabou, il y a une sorte de... Ouais, c'est cette grâce, peut-être que ce qui m'intéresse. On ne sait pas comment elle arrive, la grâce, mais quand elle est là, on ne sait pas comment... Ouais, ça, c'est merveilleux. Et lui, je trouve qu'il arrive toujours à y avoir cette sorte de luminosité.
On dirait que la caméra, c'est de l'eau. Il y a un truc où il joue avec les reflets, avec la nuit, avec le jour, avec les... Il y a un truc, on dirait que c'est fluide, enfin que c'est à queue tellement c'est...
Mais enfin, pour le coup, il y a de la matière aussi.
Oui,
ouais.
Il joue
avec tous les éléments.
Il y a beaucoup de mouvements.
Et il n'y a pas d'arrière-pensée. Quand j'ai revu Tabou, alors qu'il y a toute cette histoire d'amour et tout. Mais il n'y a jamais d'arrière-pensée dans le. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue en vrai ou... Parce que ce n'est pas tant moi la psychologie, ça me pose pas de. Je ne le prends pas forcément de façon négative. Mais tout est... Il y a une immédiateté très claire, je ne sais pas comment expliquer.
Oui, premier degré, quoi.
Oui, mais qui n'est pas sans profondeur, hein, du tout.
Oui, qui rejoint le thème du film de cet homme qui n'est pas très élevé dans la hiérarchie, entre guillemets, des hommes, et qui devient le dernier des hommes.
Qui a tout perdu ouais. aussi par une faute.
Et qui se fait laminer par tout le monde.
Par sa famille, tout ça, il va se retrouver le plus misérable. Mais fort heureusement, il y a...
Le scénariste, heureusement qu'il est là.
Oui.
Il met un petit carton à
la salle
du
film, d'ailleurs.
Ouais, puis il y a des plans quand même, il faut oser les faire à regarder comme ça, à garde. Oui, ça me met...
C'est très émouvant.
Donc dans la nuit, oui, effectivement aussi, parce que c'est un peu cauchemardesque, mais c'est pas de l'effroi. On suit le...
Oui, c'est vraiment de l'immense tristesse.
Ouais.
Un truc déchirant.
Ah oui. Ah oui.
Pour sa carte blanche, Nathalie Richard reste dans la thématique du mélodrame et après nous avoir parlé avec tendresse du dernier des hommes, elle nous décrit la dernière scène du film déchirant de Douglas Sirk, Le Mirage de la vie.
Ce dont je me souviens, donc il y a cette donc cette dame noire qui est la domestique en même temps, l'amie proche de cette famille américaine blanche, de cette femme qui est comédienne et qui a une fille. Et cette dame, donc, avait une fille qui est née métisse et plutôt blanche. Et en fait, il y a eu un grand drame entre sa fille et elle, puisque sa fille ne voulait pas accepter que sa mère soit noire. Et donc, elle qui voulait tellement, comme les autres, accéder à ce que les Blancs avaient. Et donc, on voit... si je me place du point de vue du spectateur, mais c'est pas le truc, parce que vous m'avez dit comme... à l'intérieur.
Comme vous voulez.
Comme vous voulez.
Non, parce que oui, en fait, je me mets plus comme ça, mais pourquoi? Parce que peut-être que je me mets du côté de la. Enfin, on voit le corbillard noir avec ses grandes roues qui arrive. On entend même, je crois, tous les gens qui attendent en silence. Je ne sais plus si vraiment il y a du silence d'abord et qu'on voit la voiture arriver et on comprend ce qui se passe. Il y a des fleurs blanches sur le truc et tout d'un coup de l'écran. Mais c'est pour ça que je ne me mets pas comme spectatrice, mais venant comme elle. Et elle rentre dans l'image, en fait. Je ne sais plus si elle rentre dans l'image du centre ou d'où, mais enfin, vraiment, elle rentre dans... Et elle court, je crois, vers le corbillard.
La fille.
La fille. Oui. Et elle appelle maman, maman.
Et là, généralement, la salle pleure.
Oh, mais comment elle le dit, c'est vrai, ouais, terrible.
C'est terrible.
Et parce qu'on voit aussi après les autres qui attendent. Mais c'est surtout, c'est qu'en fait, et elle essaye d'attraper les fleurs, elle essaye d'attraper le cercueil. Et en fait, ils essayent de fermer. Ouais, c'est terrible.
Et alors, pourquoi ce film? Pourquoi l'avoir choisi, celui-là?
D'abord parce que j'aime beaucoup Douglas Sirk. Je l'ai découvert plus tard, en fait, que ces autres films-là. Mais, pardon, parce que je pense aussi qu'on n'avait pas commencé à faire de rétrospectives. C'est après les films de Fassbender qu'on était... parce que je trouvais que c'était une façon quand même très intéressante... de comment parler du racisme et comment cette jeune fille aussi essayait de dépasser le racisme, elle étant métisse mais plutôt blanche, comment est-ce qu'elle essaye de cacher le fait que sa mère soit noire, donc qu'elle est noire, mais qu'en fait elle se retrouve dans un paradoxe fou, quoi. Et quelles étaient les difficultés, les pièces dans lesquelles on pouvait tomber pour en fait, elle essaye de dire qui elle est tout en reniant qui elle est, quoi.
Et quelle place il a ce film dans votre cinéphilie?
Oh ben, Sirk, après, je suis allée voir tous ses films et tout, quand même comme mélodrame. Je trouve il y a une intelligence, je trouve, incroyable. Alors qu'il y a ça y va, c'est tout. Mais il y a l'intelligence qui tient le film, enfin les pensées du film. Donc ça, je trouve ça assez admirable. Et c'est vrai qu'il a tout un travail de mise en scène, justement. Alors sur les escaliers, alors lui aussi les reflets, mais comment les gens... Il y a je trouve que le décor joue beaucoup dans la dramaturgie, en fait, de ces films.
Oui, c'est une grande richesse, effectivement.
Ouais, ouais.
Et vous l'avez découvert il y a...
Oh, il y a longtemps. Il y a longtemps. Oh, ouais, dans les années 80. Mais c'est dans les années 80 qu'ils ont commencé à ressortir et tout ça. Et parce qu'aussi, il y avait à l'Arche, ils avaient édité le bouquin de Fassbinder, où il parle de Douglas Sirk.
C'est ça, parce que Fassbinder considérait Douglas Sirk comme le plus grand cinéaste en vie et en activité à son époque, en tout cas.
Tous ses films sont très beaux.
C'est vrai.
Mais c'était du rapport à la mer, je trouvais assez incroyable. Voilà, et cette femme et la maman, cette actrice noire américaine qui joue, elle est absolument... magnifique. Bon, il y a Lana Turner aussi qui fait l'actrice. Voilà. Mais moi, je suis assez pour. Enfin, quand on essaye de s'attaquer à la forme du mélodrame et qu'en même temps on arrive à avoir cette puissance et cette intelligence de propos, je trouve ça formidable. Enfin, ça m'emporte.
Dans cette partie consacrée à la transmission du cinéma, nous avons demandé à Nathalie de nous partager un film ayant su capter l'air du temps. Ne faisant pas les choses à moitié, elle a choisi 3 films et un cinéaste. Avec l'agilité d'un chat, cette dernière saute de Memoria à Melancholia en faisant quelques détours par Salo de Pasolini et la filmographie du documentariste chinois Wang Bing.
Ben, Memoria, parce que je repensais à... Non, justement à cet aujourd'hui où il y a des gens, et à cause de Wang Bing. Et c'est comme ça que j'ai pensé à Mélancolia, en fait, après. Sur ce monde qui, visiblement, ne tourne pas forcément très rond, va possiblement à sa perte, mais bon, on ne sait pas encore pour combien de temps. Mais il y a tous ces films qui essayent de dire, ah, il y a... quelque chose aussi à côté qu'on ne voit pas, de cet invisible qui serait partie prenante. Et si on ne fait pas attention à ça, ça peut être plus dangereux que si on y prête attention, de remettre, alors c'est pas de tous les trucs sur la planète et tout ça, mais c'est de considérer en fait le monde avec tous ses mystères, ses complexités, ses paradoxes. Donc cette femme, c'est comme si elle entendait le bruit du monde ou le bruit d'autres voix d'avant. Après, peut-être qu'il y a un dysfonctionnement aussi, mais bon, s'il y a un dysfonctionnement, c'est bien qu'il y a quelque chose à entendre. Et donc, elle va voir un homme et finalement, ils entendent en fait des voix de ce qui a pu se passer auparavant. Et à un moment donné, il y a cette scène où ils sont et on les entend vraiment comme si elles étaient revenues totalement au présent et ils se prennent juste la main. Et là, je me suis dit, mais ça vaut le hors-d'être quand elle se réveille. Là, c'était... Parce que c'est tellement simple, c'est tellement casse-gueule. Enfin, je veux dire, il faut y croire quand même au truc. Hein. Ben, ça marche. Ça marche. Enfin, moi, j'étais bouleversée.
Incroyable. Autant,
c'est sublime, sublime. Et on entend tout d'un coup toute l'histoire qui est là, qui est vivante, plus que vivante. Que eux, mais leur écoute est vivante à ce monde oublié, en fait, et qui revient comme un « je suis le colonel Chabert
». Toujours des histoires de revenant, ouais, finalement.
Ouais. Non, mais que ça, c'est... Il y a un ensemble, quoi. Voilà, et je trouvais aussi que dans la qualité de jeu... Il arrivait à faire quelque chose dans la fiction que je retrouve de façon absolument admirable chez Wang Bing ou chez ce jeune Deng Fei qui a eu le grand prix et qui s'appelle Father.
Prix à Belfort.
Ouais, oh. Le grand prix qui est vraiment dans la lignée de Wang Bing. Et je trouve que Wang Bing, la façon dont il met ces personnes en situation où on ne voit jamais lui où il est, mais il est toujours à la bonne distance de filmage. Et quelque part, il y a une succession de situations. C'est-à-dire qu'on est dans du documentaire parce qu'il raconte quelque chose, mais ce n'est pas un reportage. Et on est vraiment dans un film, dans une fiction de ces gens. C'est et ça. Je me dis, il y a des moments, je les vois jouer, mais si je pouvais jouer comme ça, ils ont une qualité de jeu mais extraordinaire. Mais lui arrive dans le temps de comment il les filme, parce que c'est quand même, tout est mis en scène. Ce n'est pas pris au hasard, où il arrive toujours à se placer de façon à ce que... Il y a une composition, parce que par exemple, trois sœurs du Yunian, c'est quand même incroyable. Mm. Même le film sur la folie, waouh. Eh bien voilà, je trouve que avec Memoria et ça, je trouve qu'il y a une qualité, alors pour le coup, de ce qui capte de la vie, mais du jeu, de comment les gens seraient
du présent
qui est absolument magnifique.
Mais d'ailleurs,
si on arrivait, nous, à faire ça en fiction, j'aimerais bien.
C'est vrai. Mais d'ailleurs, pour en revenir à Wang Bing, il y a quelques mois, ou il y a même un an ou deux, je ne sais plus, il y avait eu une rétrospective et une exposition au Jeu de Paume.
Ouais.
Et le titre de l'exposition, c'était Wang Bing, l'œil qui marche.
Ah, d'accord.
Et je trouve que ça rend très justement compte de sa démarche.
Ouais, ouais.
Il est là, il a une intention extrême à ce qui l'entoure et au présent. Ceci dit...
Oui, puis il est toujours dans la bonne distance et la scène, elle dure. Mais il y a des fois, mais même le tout début d'À l'ouest des rails, où il se retrouve dans l'entreprise, il y a le type qui tousse. Mais c'est une scène géniale, quoi. Magnifique.
Mais moi, ce que dans les films aussi, notamment dans Mélancolia et dans Salo, il y a une tristesse, il y a un espèce de truc ultra mélancolique sur le monde, quoi. Donc, est-ce que ça fait partie justement de cette ère du temps?
Sûrement, ou d'un danger, parce qu'après, en fait, de ça, j'ai pensé au danger de Mélancolia. Bon, et il y a ça aussi, parce que quand même, avec ce tremblement de terre, là, dans Memoria, en fait. Ah, bon, avant la soucoupe volante, là, et tout ça. Mais cette idée de... Bah, d'ailleurs, parce qu'il y a ce film américain, là, moi, je me suis endormie devant, hein, aux États-Unis, là, Don't Look, parce que ça vous
a... Ah oui, Don't Look, oui.
Que ça va te tomber dessus sur la tête, la météorite. Bah, voilà. Et là, je trouvais ça très beau sur l'histoire de la science, comment elle pense avoir raison et finalement elle s'est trompée. Enfin, nous, avec cette histoire de virus où tout le monde se dit on va. Et je trouve qu'il y a une chose magnifique entre ce mariage, l'amour qu'il y a entre, après là où Charlotte Gainsbourg, elle est absolument magnifique. Alors, elle a une voix. Je trouve de plus en plus, quand je l'entends et quand elle joue, elle a un truc dans la voix, un timbre de voix absolument splendide. Et bah je trouve de toute cette impression de où on ne sait pas, où quelque chose de plus fort que vous, qui est encore plus que le monde dans lequel on vit, voilà, je trouve qu'il y avait une métaphore assez incroyable dans Mélancolia. Et puis même quand elles se mettent sous la hutte et qui ne protègent rien du tout. Mais on espère.
On espère, c'est vrai.
Il faut garder la foi.
C'est quelque chose de magique.
Oui, de magique, c'est ça. Il y a un désir de retrouver des choses qui en fait sont... simple, mais qui deviennent magiques, parce que c'est de tenter de, peut-être de...
Jusqu'au bout.
Oui, de croire jusqu'au bout, je sais pas. Et l'air du temps, parce que Salo, je pense que ça reste un film aussi fort, toujours maintenant, sur le pouvoir, le sexe et la politique et la dictature, quoi, voilà. Donc, on mettrait juste un peu d'autres costumes. Je pense que ce serait...
ouais. Puis ça choquera... De tout temps.
Ça choque toujours, ça perd pas de son pouvoir de subversion en tout cas.
Oui, enfin ça de penser, parce que moi justement je l'ai revu pendant la période du confinement, j'avais amené plein de... Je me suis retrouvée à la campagne avec une amie, donc j'avais amené, je me disais, mais putain, on va revoir quand même.
Vous vous êtes dit un petit salaud, c'est sympa.
Ah ouais, mais on a fait la ricotte, hein, j'ai revu La Passion selon Saint Matthieu. Ou alors là j'étais même étonnée, mais je trouve que là il a des plans, des gens à des moments, waouh, incroyable. Mais c'est comme là, ce film-là, il est quand même... Mais moi, je suis pas si choquée, en fait. Même quand je l'ai vu assez jeune, en fait. Là.
C'est difficile de parler de Salo, je trouve, parce que... On a déjà cité le film dans l'émission.
Ah,
et la personne qui nous avait répondu, elle avait vraiment été choquée par le film, au point de pas avoir envie de le revoir. Elle nous a dit, le film m'habite suffisamment. Mmh. Et c'est fini pour moi, quoi. Je sais que je pourrais jamais m'en défaire, mais...
Ah oui, moi aussi, c'est un film que je reverrai, justement, parce que pour essayer de voir ce que comment je le repense ou comment il me fait repenser. C'est vrai que c'est le cycle d'amertes qui est difficile, parce que
oui,
quand on imagine qu'on avale,
qui
c'est quand même un peu dur. Bon, eux, ils avaient du chocolat, quand même. Mais il paraît qu'ils se sont bien marrés. Hein.
Bah, je pense.
Vaut
mieux vu la dureté, quand même.
Ouais, ouais. Mais après, je trouve qu'il y a une telle... D'abord, c'est quand même vachement bien filmé, enfin je veux dire, c'est pas beau de découvrir. Donc je trouvais que ça oblige à être lucide, quoi, à regarder.
C'est vrai.
Parce que qu'est-ce qui nous embête, enfin quand on se pose la question, qu'est-ce qui m'embête le plus, c'est la période du sang? Non, ben là oui, j'ai été habituée, ou alors enfin, ou dans le regard du
voyeur. Oui, c'est la position de voyeur, en fait.
Ouais, ouais.
Mais oui, je pense que c'est intéressant de le revoir et de s'interroger sur
qu'est-ce que
notre
ça
réception
nous fait
actuelle, bah
exactement,
en fait.
Et comment, voilà. Donc en ce sens-là, je trouve que sur la monstruosité des dictatures et du rapport à la torture, c'est intéressant.
Mais ce qui est intéressant dans tout...
Il traverse tous les temps.
C'est vrai. Mais justement, dans tous les films que vous avez choisis, c'est des films qui convoquent beaucoup le passé aussi. Wang Bing, il le fait en s'intéressant à l'histoire de la Chine. Donc là, Salo, ça se passe quelques décennies avant la durée du tournage, bien sûr. C'est aussi le cas de Memoria, finalement. Mmh, mmh. Est-ce que pour comprendre l'air du temps,
oui, c'est-à-dire de comprendre aussi les catastrophes, les chaos, les guerres, de comment elles ont structuré des gouffres, des pensées, des possibilités des traumatismes, de comment avec ça on avance et comment
presque les traumatismes qui teintent l'air du temps.
Oui, enfin qui les traverse, qui les constitue.
Enfin,
que ça constitue des strates. Non, c'est de la géologie, en fait. Il fait un pied de chapon qui fait un peu de géologie.
Pour finir comme on a commencé, Nathalie Richard nous parle non pas de film refuge, mais de deux voix refuge, celle des actrices Brigitte Mira et Delphine Sierrille, qui l'accompagnent et la guident dans son métier d'actrice autant que dans son plaisir de spectatrice.
Et puis, c'est qu'elle a une voix. Je me souviens de la scène dans la cuisine. Ah, maman Custer, ça va au ciel. Ça, on l'avait vu au lycée. Que c'est la merde. Mais je me souviens. Au shampoo. Et après, moi, je l'ai revue. Et alors, quand elle est dans la cuisine et qu'elle comprend pas ce qui se passe et qu'on va venir la chercher, mais il y a un tel.
Oh. Puis même après, quand elle épluche ses patates,
mais
quel
oui,
journaliste.
Oui, oui. Ouais, c'est un super film. Ouais. Magnifique.
Et refuge par. Par son jeu, par sa grandeur dans le film.
Ouais, et de son âge, d'être arrivé à son âge et de jouer comme ça, et d'avoir cette sensibilité, intelligence, géniale, quoi.
Cette vivacité,
ouais, et puis l'œil qu'elle a, quoi, magnifique. Ouais. Voilà, et donc dans les voix, je disais, bah oui, les voix. Et bah après de série, bah oui, bah quand même magnifique.
Oui.
Bah oui.
Tout de même, et comme dame, et comme vraiment la pensée féministe qu'elle avait, ce qu'elle racontait sur la société, la façon dont elle le racontait, absolument magnifique, et de comment elle joue, et la grâce avec laquelle elle joue, et les choix de cinéma aussi qu'elle a fait, vraiment.
Oui, ça réconforte de voir de telles personnalités exister.
Oui, mais... Et sans jamais aucune vindicte. Elle était... elle ne mâchait pas ses mots. Mais... Ouais. Grande dame. Voilà.
Et ben, merci beaucoup, Nathalie Richard.
Merci à vous.
Bon, on en profite aussi pour remercier Élodie Imbeau de la Cinémathèque et Gabriel Régnier pour sa musique.